Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Prince est un traité politique rédigé par Nicolas Machiavel en 1513, dans le contexte des guerres et des rivalités qui fragmentent la péninsule italienne. Dédié à Laurent de Médicis, il examine les conditions concrètes permettant de conquérir, d'organiser et de préserver un État. L'ouvrage ne propose pas une théorie générale de la justice, ni un idéal moral de gouvernement. Il part plutôt des rapports de force, des ambitions humaines, des crises militaires et des risques de conspiration. Ces 26 chapitres distinguent les types de principautés, étudient les modalités de conquête, défendent la nécessité de forces armées propres et analysent les qualités requises chez un dirigeant. Machiavel confronte constamment la vertu, soit la capacité politique à agir avec décision et discernement, à la fortune, soit la part instable des circonstances. Souvent réduit à une apologie de la cruauté, le texte est surtout une enquête lucide sur les exigences, les limites et les dangers du pouvoir effectif. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, classer les principautés pour adapter les méthodes de conquête. Machiavel ouvre son traité par une typologie des États, car une même stratégie ne peut convenir à tous les régimes. Il distingue notamment les principautés héréditaires, plus faciles à conserver lorsque les institutions et les habitudes restent stables, des principautés nouvelles qui exposent davantage le souverain à la contestation. Dans les territoires récemment acquis, les sujets peuvent espérer le retour de leur ancien ordre ou se découvrir déçus par le nouveau maître. Le problème central devient donc la consolidation, non la seule victoire initiale. Machiavel examine aussi les États habitués à vivre libres et ceux soumis depuis longtemps à un prince. Les premiers conservent une mémoire politique et peuvent redevenir dangereux si leur structure collective survivent. Cette analyse écarte les recettes universelles. Gouverner suppose de comprendre les traditions, les élites locales, les intérêts matériels et les attentes des populations concernées. Le réalisme du livre tient à cette attention aux configurations précises plutôt qu'à des principes abstraits. La conquête apparaît comme un processus prolongé, fait de décisions administratives, militaires et symboliques. Un pouvoir qui néglige les causes prévisibles du mécontentement transforme son gain territorial en source durable de vulnérabilité. Deuxièmement, préférer les armes propres aux mercenaires et aux auxiliaires, la réflexion militaire constitue une partie décisive du prince. Machiavel juge les troupes mercenaires dangereuses parce que leur loyauté dépend du paiement, de leur intérêt et de leur chef, non de la survie de l'État qu'elles servent. Elles peuvent se révéler hésitantes dans le danger, coûteuses en temps de paix ou menaçantes lorsqu'elles deviennent puissantes. Les forces auxiliaires, prêtées par un autre souverain, posent un risque différent, mais tout aussi grave. Si elles perdent, le prince demeure sans défense, et si elle gagne, il dépend de leur commanditaire. Cette critique ne relève pas seulement de la tactique. Elle porte sur la souveraineté politique. Un dirigeant incapable de défendre son État, avec des forces liées à son propre ordre de gouvernement, remet sa sécurité à des volontés extérieures. Machiavel défend donc une armée composée de citoyens ou de sujets, organisée sous une autorité directe. Son argument associe autonomie militaire, cohésion civique et stabilité institutionnelle. Même si les formes de la guerre ont profondément changé, le raisonnement conserve une portée analytique. Toute organisation qui délègue ses fonctions vitales sans contrôler les intérêts de ceux qui les exercent accroît sa dépendance et réduit sa marge de décision lors des crises. Troisièmement, conjuguer la force du lion et la ruse du renard, dans les chapitres consacrés aux qualités du prince. Machiavel refuse de confondre vertu morale et efficacité politique. Le dirigeant doit savoir employer la force lorsque les règles ordinaires ne suffisent plus. Mais il doit aussi savoir reconnaître les pièges, dissimuler ses intentions et négocier avec prudence. La figure du lion désigne la puissance capable de repousser les menaces ouvertes. Celle du renard désigne l'intelligence qui détecte les tromperies et évite les engagements destructeurs. Cette double aptitude ne signifie pas que toute violence ou toute fraude serait recommandable. Machiavel évalue les actes selon leurs conséquences pour la sécurité de l'État, la stabilité du pouvoir et la réaction des sujets. Une cruauté répétée, arbitraire ou prédatrice, nourrit la haine et prépare les révoltes. A contrario, une décision sévère mais limitée peut, dans son cadre, empêcher une désorganisation plus large. Le texte place ainsi le prince devant une tension inconfortable entre normes morales et nécessité politique. Son apport consiste à rendre cette tension visible au lieu de la masquer sous un langage vertueux. Il invite aussi à distinguer la réputation publique, la conduite réelle et les effets durables des décisions. Cette séparation explique autant la force historique du livre que les controverses qu'il suscite. Quatrièmement, éviter la haine tout en acceptant la nécessité de la crainte. Machiavel formule une distinction devenue centrale dans la réception du prince. Il est plus sûr pour un dirigeant de susciter la crainte que de dépendre de l'affection. car les liens affectifs peuvent céder devant les intérêts et les dangers. Toutefois, il précise qu'un prince doit éviter avant tout de devenir haï. La crainte est politiquement utilisable lorsqu'elle repose sur des règles prévisibles, une justice ferme et la protection de la sécurité collective. La haine naît davantage des humiliations, des confiscations, des atteintes aux biens, des violences sans mesure et des offenses portées aux familles. Ce raisonnement ne célèbre donc pas une terreur permanente. Il décrit les seuils au-delà desquels la coercition détruit sa propre efficacité en unissant les mécontents. Machiavel accorde également une place importante aux apparences. Un prince doit paraître fidèle, humain, religieux et juste, parce que la plupart des citoyens jugent à partir de ce qui est visible. Mais cette politique de l'image reste fragile si elle ne correspond jamais aux résultats concrets du gouvernement. Le pouvoir durable dépend ainsi de deux registres liés mais distincts, une perception publique favorable et une gestion suffisamment prudente des intérêts populaires. La leçon essentielle est que la contrainte sans calcul politique engendre des adversaires au lieu de garantir la sécurité. En dernier lieu, opposer la vertu à la fortune pour penser les crises politiques, le prince ne présente pas le succès comme le simple produit de la volonté. Machiavel reconnaît le poids de la fortune, terme qui désigne les événements imprévus, les changements de conjoncture, les accidents de succession et les occasions favorables ou funestes. Cependant, il refuse le fatalisme. La vertu correspond à la capacité de lire une situation, de préparer des moyens, de prendre une initiative et de modifier sa conduite lorsque le temps change. Un prince élevé par la seule faveur ou par une circonstance exceptionnelle dispose souvent d'une base fragile. Il doit rapidement créer des institutions, des alliances, des forces armées et des soutiens qui rendent son pouvoir moins dépendant du hasard. Les exemples historiques mobilisés par Machiavel servent à comparer les effets de la prévoyance, de la hardiesse et de la mauvaise adaptation. Le rapport entre vertu et fortune donne au traité sa dimension dynamique. Gouverner ne consiste pas à appliquer un caractère fixe ou une règle immuable, mais à ajuster les moyens aux circonstances sans perdre de vue la conservation de l'État. Cette conception explique aussi la conclusion patriotique du livre, qui appelle à saisir une occasion politique pour libérer et unifier une Italie exposée aux puissances étrangères. En conclusion, le prince convient aux lecteurs de philosophie politique, de droit, d'histoire de la Renaissance et de stratégie, mais aussi à toute personne désireuse de comprendre comment se forment les rapports entre autorité, institution, réputation et force. Sa lecture demande une vigilance critique. Les conseils formulés pour des principautés du XVIe siècle ne peuvent être transposés tels quels à des démocraties contemporaines. Et plusieurs propositions soulèvent des objections morales et politiques majeures. Son intérêt ne réside donc pas dans un catalogue de techniques à imiter, mais dans la netteté avec laquelle il expose des dilemmes que les discours officiels tendent souvent à dissimuler sécurité contre liberté, promesse contre nécessité, popularité contre stabilité, préparation contre imprévu. Comparé au miroir des princes traditionnels, qui définissaient volontiers le bon souverain par ses vertus morales, Machiavel se distingue par son attention aux effets réels des décisions et aux conditions matérielles de la puissance. Il ne décrit pas seulement le comportement souhaitable du chef, mais les mécanismes qui font échouer les États mal préparés, militairement dépendants ou incapables de contenir le ressentiment. Cette approche explique sa postérité durable et ses lectures opposées. Le livre permet moins de résoudre définitivement le problème du pouvoir que de l'examiner sans idéalisation. Il offre ainsi un instrument intellectuel exigeant pour analyser les stratégies politiques, leurs contraintes et leurs coûts humains. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Machiavel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.